bienvenue sur Génération Liée, un podcast de Peuple et Culture. Pour faire simple, Peuple et Culture, qu'on appelle aussi PEC, c'est un groupe d'associations réparties partout en France. Notre but ? Promouvoir une éducation qui ne s'arrête pas à l'école, mais qui continue tout au long de la vie. Chez PEC, on pense que tout le monde devrait pouvoir exprimer ses opinions et être acteur et actrice de la vie démocratique de manière égale. Pour ça, on propose aux gens de développer leur esprit critique à travers des activités éducatives, culturelles, artistiques et même des rencontres de jeunes. Ces idées sont au cœur de Peuple et Culture depuis sa création, il y a 80 ans, quand d'anciens résistants ont misé sur l'éducation pour reconstruire la société après la guerre. Ce podcast vise à interroger différents sujets, comme la montée de l'extrême droite, l'interculturalité, l'inclusion, la place des femmes et les enjeux écologiques qui portent depuis longtemps et portent encore les travaux de nos assos. Ainsi, des personnes de tout âge, de toute génération se succéderont au micro pour échanger sur ces sujets parfois complexes, en partageant leurs points de vue et leurs expériences. Rejoignez-nous pour échanger et mieux comprendre le monde qui nous entoure. Bonjour, je suis Sonia en service civique à l'Union Peuple et Culture et je vous retrouve aujourd'hui avec un format un peu différent puisque nos deux invités n'ont pas pu se rencontrer pour cet échange. Je les ai retrouvés donc sur des temps différents pour les interroger autour des mêmes thématiques portant sur la transition écologique et son articulation avec l'éducation populaire. Sans être exhaustif, il sera surtout question d'aborder comment les organisations qui sont représentées par les invités et l'éducation populaire en général s'inscrivent dans une démarche écologique et permettent sa démocratisation auprès du public, que ce soit dans le milieu rural ou encore auprès de populations qui sont en général écartées des espaces de lutte écologique. Et donc je propose que nous passons à la présentation un peu plus détaillée de nos invités pour nos éditeurs et à la présentation aussi des structures qu'ils représentent.
Moi, je suis Marianne Flochelet, actuellement coprésidente au niveau de la Fédération nationale Accueil Paysan. Je suis adhérente depuis l'année 2002 à l'association Accueil Paysan en Normandie. À l'époque, nous n'avions qu'une association régionale. Ensuite, nous avons créé, puisque j'appartiens au département de l'Orne, une association départementale. Et donc, depuis 2023, j'ai rejoint le collectif national en tant qu'élue et je co-anime avec Edith Bonnet de Nouvelle-Aquitaine et Olivier Berthelot de l'Occitanie le réseau Accueil Paysan. Cette année, nous avons en 2025 rajouter deux personnes des Pays de Loire, de manière à ce que le tuilage se fasse gentiment et que l'association continue de perdurer. Donc, notre association Accueil Paysan, elle émane de la région de l'Isère, de cette région de montagne. C'est pour ça que nos locaux sont basés actuellement à Grenoble. Nous, ce qu'on défend aujourd'hui, c'est vraiment le maillage sur le territoire en complémentarité de cette agriculture soi-disant industrielle, de cette agriculture paysanne, de ces lieux de vie qui peuvent vraiment permettre un ressourcement à l'ensemble de la société.
Alors moi, je travaille pour le Collectif pour une transition citoyenne, qui est une association qui regroupe 34 organisations qui travaillent sur des sujets de transition écologique, sociale et démocratique. Il y a autant des associations de mobilisation comme Alternativa, Attaque, Les Amis de la Terre, que des associations et des entreprises coopératives qui travaillent sur des thématiques en particulier, comme l'énergie avec Enercoop, la finance avec la Nef, ou encore l'agriculture avec Bioconsommateur, Terre de Liens ou autres. Le collectif pour une transition citoyenne porte des projets. Différents projets. Il y a un premier projet qui s'appelle la Fête des Possibles, qui est un événement qui a lieu au mois de septembre et lors duquel on appelle toutes les initiatives pour un monde plus juste et plus durable à organiser des événements pour célébrer ce qu'elles font pour le futur. Et un autre projet qui s'appelle le Pacte pour la Transition, qui est un projet qui appelle les citoyens à aller voir les listes candidates lors des élections pour mettre à l'agenda politique des sujets de transition. Ça, c'est les deux projets principaux. Et on en a d'autres, on en a un plutôt sur les tiers-lieux. On a également incubé des coopératives comme les Licornes et comme CoopMedia. Le CTC existe sous cette forme depuis 2015, donc ça va faire 10 ans bientôt.
Marie-Annick, pouvez-vous nous parler de la création de la Fédération nationale d'accueil paysan et de l'évolution de la place de l'écologie dans ce réseau, justement?
À l'origine, c'est un travail qui s'est fait en lien avec justement Peuple et Culture, qui était très investi dans les territoires ruraux et qui, avec des adhérents paysans, ont monté ce qu'ils appelaient des comités d'études et de propositions, qui est l'anagramme en fait de Peuple et Culture, qui étaient des CEP, installés à travers l'ensemble du territoire donc montagnard, mais après qui a essaimé dans la région Nouvelle-Aquitaine, dans d'autres régions, en Bretagne également. Et donc ces comités d'études et de propositions réunissaient des paysans, des chercheurs, et qui analysaient le travail qui était fait sur les structures agricoles et qui essayaient de voir comment, avec l'industrialisation, on va dire, de l'agriculture, on pouvait continuer à faire perdurer cette agriculture paysanne qui existait sur des petites structures, sur des terrains des fois difficiles. Et donc, tout ce travail de réflexion a amené, dans les années 1987, à la mise en place du réseau Accueil Paysan. Donc, ce réseau a grandi au fil des années. Actuellement, en 2025, on a environ 13 associations régionales, 25 associations départementales, et environ 800 structures adhérentes qui constituent environ 1200 adhérents individuels à notre association. Alors, c'est vrai que depuis le démarrage, pour les adhérents d'Accueil Paysan, ceux de 1980 ou ceux d'aujourd'hui, le vivant, le respect du vivant, la co-construction avec la nature a toujours été le moteur de l'action, de l'acte de production. Donc, c'est pas nouveau que ces données-là, elles sont portées depuis la création, et donc on est très attentif à les faire perdurer et surtout à les partager avec les personnes que nous recevons.
On se demandait aussi comment s'articulent les enjeux de développement local et les enjeux écologiques dans vos organisations.
Accueil Paysan défend vraiment un projet de société avec une agriculture locale, avec des producteurs locaux, avec des producteurs en capacité aussi d'accueillir et de partager pour que perdure et qu'on continue à pouvoir partager cette importance du monde du vivant, de cette écologie qui doit permettre à la société d'être résiliente, tolérante, accueillante. Le fait de partager nos lieux de vie, on les partage pour le travail, mais on ne les partage pas que pour le travail. On les partage aussi pour nos savoir-faire, certes, mais aussi pour pouvoir faire que nos lieux soient des lieux d'échange et d'accueil pour la culture. Alors, soit il y a énormément de lieux qui font des résidences d'artistes, donc qui reçoivent des artistes pendant un temps donné. Ces artistes, au bout du temps de résidence, offrent leur création, et la création est partagée au sein de nos lieux de vie, mais aussi avec l'ensemble de nos voisins, de nos partenaires qui sont dans nos lieux. Et ça permet de mettre en lien Des gens qui sont essentiellement, nous accueillis, sont essentiellement des gens qui viennent du monde urbain, mais qui peuvent ainsi avoir des vrais temps d'échange avec le monde de la ruralité. Et c'est pareil pour nos voisins, c'est important de pouvoir échanger pour connaître les problématiques des uns et des autres. Et c'est justement ce temps d'échange qui est riche et qui permet une meilleure compréhension des modes de vie des uns et des autres et l'importance du respect de l'écologie, du respect du vivant, de la façon de mener les choses en lien avec justement cette agriculture paysanne qui n'est pas là pour exploiter, mais qui est bien là pour co-construire avec la nature et pouvoir nous permettre à nous humains de nous nourrir, mais sans détériorer ce qui va servir à l'avenir, à ceux qui viendront après.
Dans le milieu rural et notamment dans le milieu agricole, il se passe un peu ce qui se passe partout dans tous les secteurs d'activité dans notre société, disons, capitaliste libéralisée, où tout est mis en place pour que la société soit productive et que le capitalisme prospère, qu'on puisse accumuler, etc. Et quand on est agriculteur, donc on est dans ce système où on est formé au sein de lycées agricoles qui forment plutôt à des pratiques productivistes, même si c'est en train de changer évidemment. Et puis une fois qu'on veut s'installer, on réfléchit son système économique dans le monde politique actuel, avec notamment les aides de la politique agricole commune qui favorisent la taille des exploitations plutôt que d'autres facteurs. Les premières aides sont liées au nombre d'hectares qu'on a. Et tout ce système pousse à réfléchir à un modèle économique où on produit pour vendre. Et quand on reprend une ferme ou quand on crée une ferme, on va dans ce système, on fait des prêts à la banque pour acheter du matos. Et après, on s'installe et on est pris dans ce système. Et même si on veut re-réfléchir le système de la ferme, après on peut être aidé par la chambre d'agriculture, mais qui est tenue par le syndicat agricole majoritaire, qui est le syndicat, qui par le FDSEA local, et par les coopératives agricoles également. Et ces personnes qui sont à la tête de la chambre d'agriculture ou des coopératives agricoles, ce sont les personnes qui quelque part bénéficient déjà du système et elles veulent garder cet outil à disposition pour que le système perdure. Comme ça se passe partout dans la société, les personnes qui ont le pouvoir économique, donc les personnes dans le monde agricole qui ont des fermes qui fonctionnent, ont aussi le pouvoir politique dans les chambres d'agriculture et dans les coopératives. Et quand on est en milieu rural et quand on est par exemple agriculteur et qu'on veut se battre contre ce système, qu'on veut changer et qu'on va aller vers d'autres modèles et qu'on veut par exemple s'insérer dans la transition écologique, on fait face à tout un système dont il est très difficile de se dépêtrer, et ça demande beaucoup d'efforts de réfléchir à un autre imaginaire, à un autre modèle, et d'aller vers d'autres moyens de produire ou d'habiter à la campagne.
Comment voyez-vous le lien au territoire et à l'environnement dans le contexte de l'écologie, justement? Qu'est-ce que vous essayez aussi de mettre en avant, peut-être dans vos structures?
Le fait d'ouvrir son lieu, de laisser les gens vivre, de les laisser s'approprier l'espace, le temps, ça permet une prise de conscience qui est bien plus profonde parce qu'elle ne reste pas dans les mots, elle rentre vraiment dans ce qui est le vécu. Et à partir de là, les échanges après peuvent être différents. Parce que ce ne sont pas que des points de vue, là c'est vraiment un vécu qui va être confronté à un autre vécu ou qui va comprendre parce qu'il l'aura vécu en vrai, entre guillemets, il pourra mieux comprendre qui lui apparaissait peut-être complètement différemment avant d'avoir vécu ce lien à l'animal, ce lien à la nature, ce temps de transformation d'un produit, par exemple. Certaines personnes sont très loin d'imaginer qu'à partir de simplement du lait, on arrive à faire du beurre, faire du fromage. Et le fait de le vivre en vrai permet de prendre conscience aussi et après de respecter ce que l'on va manger et ce que l'on va consommer.
Par rapport au territoire, c'est vrai que c'est souvent comme quelque chose de très important. Encore une fois, parce que dans le monde où on vit aujourd'hui, on peut assez facilement vivre sans avoir de lien à ses voisins. On vit dans une société plutôt individualiste, où on peut chacun assez facilement être dans son pavillon, devant son smartphone ou devant sa télé, et aller au supermarché à 30 minutes en voiture, et il n'y a pas de souci. On peut très bien vivre comme ça. La transition écologique, c'est vrai qu'il y a plein d'exemples qui essaient de reconnecter les gens entre eux. J'ai un exemple en tête des habitats participatifs ou ce qu'on peut aussi appeler des écolieux ou comme font les colibris, les oasis, qui sont des lieux où les gens se retrouvent pour construire ensemble d'autres manières d'habiter les territoires. Et ça, c'est important parce que ces initiatives collectives, elles créent de la solidarité dans les territoires, elles font en sorte qu'il y ait une vie locale qui se recrée et qu'on soit reconnecté à ce qui nous entoure. C'est un peu le fait d'habiter de manière cohérente son territoire, tout comme en agriculture, on peut avoir ce biais d'avoir une agriculture qui se ressemble partout. Et qui est du coup dans un modèle productiviste où c'est assez simple, on plante tous les mêmes semences, on met les mêmes engrais et on laboure à la même profondeur. L'agriculture, disons paysanne, elle s'adapte au climat, à la terre, à ce qui existe déjà sur place, à la taille de la ferme qu'on peut avoir. Et ce lien au territoire, il se recrée comme ça. Le collectif pour une transition citoyenne en soi, il réfléchit pas une manière différente d'être vivant, parce qu'au sein du collectif pour une transition citoyenne, il y a une très grande diversité d'organisations qui travaillent sur des sujets très différents. Et je suis même pas sûr que les organisations en tant que telles, elles ont réfléchi leur rapport au vivant en tant que tel. Mais par contre, c'est sûr que l'objectif quand même de toutes nos organisations, c'est de changer ce rapport au vivant. Et en effet, on en parle différemment avec quelqu'un qui habite à la campagne ou quelqu'un qui habite à la ville. Quand on habite à la ville et qu'on est très éloigné quelque part du vivant, à part s'il y a un parc à côté de chez soi, mais on peut encore questionner ce qu'est la nature dans un parc et le vivant dans un parc, ou qu'on habite à la campagne et que parfois on réfléchit pas non plus vraiment à ce qu'est le vivant parce que c'est juste ce qui nous entoure. Et il y a un peu un enjeu de peut-être de réussir à comprendre les uns les autres quel rapport on peut avoir au vivant pour recréer un dialogue et prendre soin tous ensemble de ces vivants et de pas s'opposer en tant que citadin qui ne tombe pas sa pelouse parce qu'il faut sauvegarder les abeilles et agriculteur qui fauche dans son champ et qui peut être incompris d'un point de vue citadin parce qu'il faut pas faucher l'herbe alors que l'agriculteur a besoin de l'herbe pour nourrir ses bêtes.
Pour cette deuxième partie qui concerne plus une écologie populaire, on se demandait justement quel est l'apport de l'éducation populaire à la réflexion sur la transition écologique.
L'éducation populaire est hyper importante dans la transition écologique parce que ça permet de sortir de ce système dont on est hyper dépendant partout et d'avoir des manières de se former, d'avoir un autre imaginaire, d'avoir d'autres exemples à côté de ça. Nous, au collectif pour une transition citoyenne, on a parmi nos organisations des organisations qui se revendiquent très clairement de l'éducation populaire, comme par exemple le mouvement Ygraine. Et on en a d'autres, et nous aussi en tant que collectif, on se revendique pas clairement de l'éducation populaire, alors que c'est des choses qu'on met en place, nous, dans notre fonctionnement, et qu'on propose aussi, on propose des outils d'éducation populaire aux collectifs citoyens que nous, on accompagne. Et justement, nous, c'est notre rôle d'outiller les habitantes et les habitants qui ont envie d'agir sur des questions de transition. on travaille tous à une même transformation sociétale. Et je pense que c'est important de le conscientiser que on travaille tous à la même chose, mais à d'autres endroits. Et je pense que c'est important de faire du lien, et c'est aussi ce qu'on fait au collectif pour une transition citoyenne tous les jours, c'est faire le lien entre ces différents endroits où on agit sur la société, pour que finalement toute la société puisse bouger, et on a besoin qu'il y ait des initiatives qui appuient plus parfois sur le fait que de vouloir qu'il y ait des citoyens qui puissent mieux s'exprimer et qui soient plus entendus dans leur village, dans leur ville, que des personnes qui appuient ailleurs, peu importe, sur le commerce international ou tout autre sujet.
Il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés à se sentir concernées par l'écologie. Comment justement faire sortir l'écologie de ses aspects moralisateurs, élitistes ou lointains ?
C'est par l'action, la découverte et le vécu. Toutes ces notions d'écologie ne s'imposent pas de l'extérieur, mais sont bien vécues de l'intérieur. Et quand quelqu'un arrive dans une maison ancienne où il fait 35 degrés dehors, mais on rentre à l'intérieur, il fait 18 degrés, on est bien, on comprend mieux le pourquoi de la construction, pourquoi ça a été conçu de cette façon-là. Et ça s'était fait naturellement avec les matériaux, c'était pas les normes ISO 2020 qui étaient respectées, c'était juste répondre à un besoin de sécurité, un besoin de, et on faisait avec le matériel qui était localement existant. Mais on s'aperçoit que cette réflexion il y a 100-150 ans, elle se retrouve aujourd'hui tout à fait en phase avec les températures d'aujourd'hui, le vécu d'aujourd'hui. Et ça, les gens le vivent dans leur réalité en traversant, en vivant ce moment.
Et sur ces questions de moralisation, il y a justement ces outils d'éducation populaire, encore une fois, qui permettent de ne pas arriver avec des postures moralisatrices. Par exemple, avec le collectif pour une transition citoyenne, on a pas mal échangé en amont de la campagne municipale qui arrive, avec des initiatives comme Passons-nous, qui mettent en place dans les quartiers ce qu'ils appellent des tables de quartier, justement, où c'est des habitants qui installent des tables pour échanger avec les personnes qui habitent là et discuter ensemble des préoccupations et voir comment ils peuvent agir sur ces préoccupations. Et la question aussi, c'est pas de savoir quelle est la préoccupation vraiment de l'habitante ou de l'habitant en face de soi, mais de savoir comment on peut agir collectivement pour améliorer les conditions de vie des habitantes et des habitants. Et dans l'éducation populaire, on a ce truc de construire des initiatives à partir des personnes qui sont les premières concernées. C'est souvent les personnes qui agissent en fonction de ce qui les préoccupe au quotidien, ce qui les touche, et c'est ça leur levier d'engagement, on va dire. Et dans l'éducation populaire, il y a ce truc aussi d'aller vers, en tant qu'initiative qui agit par exemple sur la transition écologique, on a une responsabilité à aller vers d'autres initiatives ou d'autres habitants qui se sentent pas forcément concernés par ça.
Pour c'est des personnes qui se retrouvent écartées des espaces de lutte écologiques, comment est-ce qu'on peut leur permettre de s'approprier justement les espaces de lutte et leur environnement ?
Enfin, le public qui s'intéresse, ou qui s'intéressait, c'est en train de changer aussi en ce moment, mais historiquement, plutôt les personnes qui s'intéressent à des questions écologiques sont des personnes qu'on peut catégoriser très rapidement d'écolo-bobos. Et finalement, on reproduit un peu des formes de domination entre les questions de transition ou les personnes avec un bagage intellectuel. Ces personnes-là sont aussi un petit peu gagnantes quand même du système politique et économique en place, peuvent arriver avec une posture de sachant et de domination justement pour dire aux personnes qui souffrent quelque part plus de la dégradation de l'environnement, de dire ce qu'elles doivent faire pour la transition écologique alors que elle contribue vachement moins à la dégradation de l'environnement que les écolo-bobos. Pour nous appeler comme ça, je peux m'inclure. Et sur des initiatives de solidarité, il y a plein d'initiatives aujourd'hui qui viennent des quartiers comme Passons-nous, dans le climat, Get Up, qui sont des assos qui partent plutôt d'endroits où on les attend sur des questions de solidarité, mais qui s'approprient ces questions de transition écologique, qui le font très bien justement en disant qu'en fait c'est pas eux d'intégrer la manière dont nous on voit la transition écologique, mais c'est à la transition écologique d'intégrer ces habitantes et ces habitants-là dans la manière dont on aborde cette transition. Pour ça, nous, au collectif pour une transition citoyenne, on porte des projets, bah, comme je citais les deux plus importants, la fête des possibles et le pacte pour la transition. Et nous, on transmet des outils à ces collectifs citoyens sur différents niveaux, donc par exemple des niveaux de comment on s'organise en collectif, de manière assez générale de comment est-ce que on prend des décisions, comment on décide de ce vers quoi on va aller, comment on décide des choses qui sont importantes pour nous, mais aussi des outils sur des choses comme la communication ou des outils comme comment sensibiliser les personnes autour de soi à travers que ce soit de l'événementiel ou que ce soit d'autres outils plus précis comme le porte-à-porte par exemple, qui est un outil qu'on va beaucoup mettre en avant pour les élections municipales qui arrivent. C'est à travers tous ces outils finalement qui sont des outils qui aident à faire du lien. Je les vois un peu comme des marchepieds vers l'objectif. Hein. C'est presque un peu comme une excuse pour finalement recréer du lien derrière. C'est un peu comment faire pour qu'il y ait plus de gens qui deviennent, par exemple, adhérents de la map de son quartier. On va créer un événement avec un stand où on va faire un porteur de parole devant le stand, donc le porteur de parole qui est un outil du coop. Et ça va être une espèce d'excuse pour recréer du lien avec les gens qui passent devant, et derrière ça va enclencher des dynamiques, et c'est comme ça qu'on va réussir à recruter d'autres personnes et faire en sorte que notre mouvement ait plus de poids. Il y a vraiment ces outils à utiliser. Il y a aussi tout un imaginaire aussi pour certains, peut-être à déconstruire des choses que nous on peut utiliser en commun, justement avec ces échanges avec Passons-nous, on a pu nous reprocher d'avoir des mécanismes, des codes communs, collectifs, d'organiser des réunions, par exemple, de lever un premier doigt si on est la première personne à prendre la parole, un deuxième doigt si on attend que la première personne attende de finir de parler, un troisième doigt si on est la troisième personne à vouloir prendre la parole. C'est des choses, finalement, c'est des codes auxquels certains groupes sociaux sont hyper habitués, et d'autres groupes sociaux pas du tout, et quand on arrive à une réunion dont on n'a pas les codes, c'est hyper dur de prendre la parole c'est hyper dur de faire entendre ses préoccupations à soi, et du coup c'est vraiment se déconstruire ses propres codes, peu importe les codes qu'on a, et essayer d'aller vers l'échange et d'utiliser si possible des outils d'éducation populaire pour recréer du lien.
Est-ce que vous avez remarqué une évolution de l'intérêt pour l'écologie et de la nécessité de repenser justement le vivant, le rapport au vivant et à l'environnement ?
Pour prendre cet exemple-là, on a organisé un projet autour des municipales de 2020. Et les municipales de 2020, c'était quelque chose qui a eu lieu dans le contexte des marches climat, où les enjeux écologiques étaient vraiment très fortement sur le devant de la scène. Et les municipales ont été fortement médiatisées dans ce contexte-là. On disait que c'était les dernières élections pour le climat, il y avait beaucoup d'engouement autour de ça.
Alors c'est vrai que notre société, on l'a vu ces 5 dernières années, je pense que l'humain qui a traversé le confinement, on va dire l'enfermement, je pense que ça a été aussi un facteur déclenchant pour regarder autrement l'extérieur et l'environnement, et comment il était important de pouvoir justement le préserver, et tous ces échanges que l'on peut avoir, co-construire sans exploiter, comment vivre parmi la nature sans la détériorer pour justement après, ce sont des notions qui, je pense, ont touché beaucoup plus de monde qu'il y a 10 ou 15 ans. Et ce n'est pas anodin le fait qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on découvre quelque chose. Non, c'était bien porté avant, mais ça devient visible pour un plus grand nombre de personnes, je pense. Et on le voit bien à la demande que l'on a par rapport à nos structures qui sont sollicitées pour pouvoir accueillir au fil de l'année et pas seulement pendant les belles périodes. C'est aussi un marqueur, ça, de ce besoin pour les urbains de se faire des parenthèses plus courtes mais plus fréquentes pour pouvoir quelque part supporter entre guillemets, c'est-à-dire vivre leur quotidien aussi d'urbains, de personnes stressées, dans le bruit, etc. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience de ça, voilà, qui se traduit par une sollicitation auprès de nos structures.
On voit depuis un certain temps un traitement médiatique et des discours politiques ou encore des actes politiques qui sont assez défavorables à l'écologie. Pour vous, quels sont les impacts de cette criminalisation des luttes écologiques à diverses échelles?
Ça nous inquiète, c'est vrai qu'il y a vraiment ce qu'on appelle en ce moment un backlash écologique et un peu une contre-vague de la vague qui a eu lieu, disons, jusqu'à 2022. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un contexte, comme tu dis, totalement différent où l'écologie est critiquée de toutes parts, que ce soit dans les médias, dans le milieu politique. Dans le milieu économique en France ou à l'international. Nous, au collectif pour une transition citoyenne, ça nous fait peur pour certaines de nos organisations, pour la pérennité déjà de ces structures, puisqu'on est dépendant pour bon nombre d'entre nous de financements issus de l'État. Et si l'écologie et plus critique, il y aura moins de financement sur des sujets de transition écologique. Ça, on le vit déjà aujourd'hui où il y a nombre de mouvements qui sont en train de réduire la voilure parce que moins de moyens. Il y a vraiment des impacts très concrets sur tous les secteurs. Dans ce contexte, ça devient de plus en plus dur de militer. Déjà, militer, c'est quelque chose qui prend énormément d'énergie et de temps. C'est un engagement qui épuise pas mal de personnes. L'épuisement militant, c'est quelque chose qu'on voit dans nos réseaux en local, des personnes qui sont très engagées et qui finalement ne voient que peu de victoires suite à leur lutte. Et ça, c'est quelque chose qui, sur le long terme, fatigue et qui crée un désinvestissement chez les personnes. Et plus en face on a un contexte compliqué ou en tout cas qui réagit durement à nos luttes, plus ça va créer du désinvestissement. Peut-être que ça va créer aussi des contre-backlash d'investissement de personnes qui que ça motive encore plus de voir que ça régresse partout. Je sais pas si on peut le voir comme un point positif, mais peut-être que ça va se passer. Et dans ce contexte de backlash écologique où l'écologie ça devient un peu un sujet de niche. Nous justement on a envie de remettre de l'éducation populaire dans tout ça comme levier pour créer du lien avec les personnes et on essaie de faire des choses très concrètes pour ça. Donc il y a des projets au collectif pour une transition citoyenne qui luttent de manière assez frontale contre ce backlash. Par exemple, je parlais du projet COPMEDIA qui a été incubé au collectif pour une transition citoyenne, qui est une coopérative de citoyennes et de citoyens qui ont envie de financer et de soutenir ensemble les médias libres et indépendants, et qui mettent des sous dans cette coopérative, et une coopérative qui fait des levées de fonds pour ensuite soutenir économiquement, mais aussi au niveau de plaidoyer les médias.
Et enfin, je me demandais un peu quelles sont vos projections pour le futur, autant pour vous-même que peut-être pour les organisations que vous représentez.
Alors, le fait qu'Accueil Paysan ait plus de 30 ans et qu'il a traversé des moments difficiles, des remises en cause des évolutions des politiques agricoles, mais là, on arrivait à un moment où on avait l'impression qu'on était vraiment en phase avec une attente de la société et que donc tout le travail qui avait été fait par nos pionniers n'était pas vain et que leur vision de l'époque était juste et que celle portée par les jeunes d'aujourd'hui, elle est aussi juste puisque on voit beaucoup de porteurs de projets venir vers notre réseau parce que malgré un parcours personnel de travail avant, ils comptent revenir vers le monde agricole avec le sens que donne l'agriculture paysanne et que donne Accueil Paysan dans son idéal de partage. Et ça, c'est quelque chose qui est porteur d'espoir.
Au niveau du collectif pour une transition citoyenne, on a une théorie du changement qui a été théorisée plutôt autour de 2013, qui est celle de promouvoir les alternatives concrètes pour un futur juste et durable. Donc c'est des fermes qui sont détenues par Terre de Liens pour être gérées comme un bien commun, c'est les AMAP, c'est les coopératives de production citoyenne d'énergie renouvelable, ce genre d'initiative. Et même si aujourd'hui c'est quelque chose qu'on veut évidemment continuer de faire, on se rend compte aussi que ces initiatives citoyennes, quelque part, parfois elles s'accommodent très bien du capitalisme et que le capitalisme, encore une fois, absorbe très bien ces initiatives citoyennes. Et on a un vrai besoin de repolitiser l'engagement dans des initiatives citoyennes dans le sens de recréer des rapports de force à partir de ces initiatives citoyennes pour que ces initiatives citoyennes non seulement bah, fassent des choses concrètes pour la transition, mais aussi que elles soient engagées dans des transformations sociétales de manière plus large pour que ce ne soient pas des petits îlots de transformation, mais que il y ait une visée de transformatrice plus large au niveau de la société. Ça, c'est un peu le futur dans lequel on doit se projeter. En termes de futur moins chouette, il faut aussi qu'on réussisse à s'adapter à ce contexte justement de backlash écologique et de forces réactionnaires. Il faut qu'on réfléchisse à comment est-ce qu'on peut continuer à pousser nos initiatives dans un monde qui lui est de plus en plus défavorable, et notamment par exemple dans le contexte des élections municipales, il y a cette question de comment est-ce qu'on fait pour que bah, des communes qui soient progressistes, qui soient quelque part des refuges pour nos initiatives, et qui puissent les accueillir et être des bases arrière pour après les redéployer, ou en tout cas faire en sorte que qu'elles ne se fassent pas totalement broyer.
Et donc, on a fait un peu le tour des questions. Est-ce que vous auriez une remarque à ajouter?
Alors, moi, ce que je n'ai pas beaucoup évoqué, et par contre, j'ai beaucoup échangé avec des précurseurs, enfin ceux qui ont été à l'origine d'Accueil Paysan, qui émanait de Peuple et Culture, c'est le fait de ce travail, enfin de ce besoin d'échange entre des chercheurs, des gens de l'action du terrain, et des citoyens, pour savoir ensemble ce qu'ils avaient besoin pour pouvoir continuer à faire, à donner du sens au travail de la terre et au travail du citoyen urbain pour que tous ensemble, on aille bien vers quelque chose. Et ce qui a été fait dans les années 80 pour arriver à créer ce mouvement, on l'a retrouvé là dans les années 20, enfin dans les années 2015, avec des chercheurs qui se sont penchés justement sur le réseau aujourd'hui il y a 10 ans maintenant, et qui ont pu extraire de ce travail ce concept qui est vraiment pour moi fondamental de paysan accueillant aménageur, et pour lequel actuellement il y a des expérimentations au sein de formations agricoles pour qu'il y ait une vraie reconnaissance de ce métier qui n'est pas qu'une compilation de choses qui se font, mais qui est bien un métier et qui va permettre aux citoyens de pouvoir les rejoindre ou les accompagner ou faire avec et faire ensemble, parce que c'est comme ça qu'une société peut exister.
On a besoin d'un futur qui est désirable pour qu'on réussisse à s'y projeter, que ça fasse envie et qu'on ait envie de lutter pour quelque chose dans lequel il y a encore un espoir certain. Et justement, l'éducation populaire, pour nous, c'est aussi un peu un moyen de réintroduire de la joie dans nos luttes et de faire en sorte que dans ce monde un peu compliqué dans lequel on vit, où justement on peut se sentir impuissant, où l'impuissance peut mener à des sentiments de dépression, ou ce qu'on appelle aussi des co-anxiétés parfois dans d'autres termes, comment on peut faire en sorte que le collectif devienne un endroit où on expérimente des manières de faire autrement, où on prend soin les unes des autres, et où on puisse se ressourcer, où le militantisme justement ne soit pas un lieu, comme je disais, on s'épuise, mais un lieu où on reprenne des forces ensemble pour changer ensemble le monde.
Je voulais savoir si vous auriez des ressources, quelque chose que vous avez lu ou entendu que vous aimeriez partager à ce sujet.
Alors, moi, j'ai lu un bouquin que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle L'écologie intérieure, qui met bien l'humain en parallèle de l'écologie globale. Après, il y a un film là qui vient de sortir, qui a été fait un peu sur en s'appuyant sur comment Accueil Paysan et l'évolution d'Accueil Paysan sur ces dernières années, avec la mise en place de nombreux collectifs qui portent des lieux de vie maintenant et qui ne sont plus des structures individuelles. Donc, il y a le film qui s'appelle L'Envol de Florent Verdet, sorti en fin d'année dernière.
Radicaux, réveillez-vous, c'est un livre qui parle du community organizing, mais c'est justement cet outil d'éducation populaire, de recréer du commun à partir de son lieu de vie, et comment à partir de ce commun, après, on peut aller lutter ensemble pour améliorer ses conditions de vie sur des choses très concrètes. Et c'est l'expérience de quelqu'un, d'un travailleur social, qui raconte comment lui, il est allé dans des quartiers pour faire ce travail. Et ça m'inspire parce que c'est des outils, il utilise des outils qui sont pas sorciers en fait, c'est d'aller parler aux gens, d'aller frapper aux portes, et ensuite de voir qu'est-ce qui joue, et de recréer à partir de ces différentes choses du commun. Et après, il accompagne ces transformations pour que des gens s'expriment et formulent des demandes concrètes à partir de leurs besoins. Et ça m'inspire, je trouve que pour les municipales 2026, c'est quelque chose sur lequel on peut vraiment s'appuyer.
Merci encore à Marie-Annick et Thélène pour leur participation à cet épisode consacré à la transition écologique, à son articulation avec l'éducation populaire, ainsi que sa place et son importance en milieu rural. Et vous, chers auditeurs, je vous retrouve très bientôt pour le prochain épisode de Génération Liée.